32 1. Une propriété Leclerc Communication. Marceau, le midi. Marceau, le midi.
Ça nous rappelle le festival d'été de Québec de l'an passé, Motley Crue avec Girls, Girls, Girls. Et les plaines d'Abraham, c'était quelque chose de rock'n'roll ce soir-là. J'ai l'impression qu'on perdait toute notre inhibition. Il y a des gens qui se sont fait dire... Après cette soirée-là, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais le band Motley Crue, quand il est en tournée,
J'avais pas pu être là.
Ouais. T'as manqué des scènes, là. Des scènes.
Ah ouais.
T'as manqué des scènes, parce que quand il est en tournée, il demande à certaines personnes de le faire. Puis Québec, c'est petit, c'est un petit village. Fait qu'il y a des filles qui ont décidé que ce soir-là, elles oubliaient leur nom, leur profession.
Oh my God.
Et le, ouais, ça semble.
En faisais-tu partie?
Non! La caméra est arrivée, j'ai dit non, et mon ami s'en est chargé, mais tu sais.
Oh my God!
C'est, ouais. Puis Yannick, il trouvait ça bien drôle de dire que je l'avais fait.
OK, lui, il faisait sa version de l'histoire.
Ben ouais, parce que là, on avait vu mon visage un peu. Mais non, ça sera pas quelque chose que je vais vous rendre, mais je sais qu'il y a des employés qui avaient été appelés par leur patron en disant ouais, t'étais au show de Motley Crue hier, hein, juste à dire. Oublie pas, t'es l'image de notre entreprise.
Oh my God.
24 heures sur 24.
Hey, tu reçois l'appel.
Oh!
Tu stresses un peu, je pense. Oui. Peut-être que tu regrettes un peu ta soirée aussi.
Ben, tu sais, ça, c'était très dans ton visage, là. On s'entend sur des grands écrans en plein festival d'été de Québec. C'est dur de manquer, mais je pense que les gens oublient des fois que des caméras qui sont un peu partout dans la ville ou autres font en sorte que tu peux être filmé à n'importe quel moment dans ta vie. Puis que ça peut être retenu contre toi, ces images-là. Je vous parle de ça parce qu'on avait jasé de certaines caméras chinoises qui avaient été bannies du Québec, qui s'appellent Hikvision. J'espère que je le dis bien, mais Amazon vend toujours aux Québécois ces caméras-là qui avaient été bannies. C'était sous ordre de sécurité nationale. C'était une interdiction totale au pays, au Canada, de les avoir. Le gouvernement voulait envoyer un message assez fort. Donc, il en avait parlé du côté du FBI, du côté des États-Unis. C'était déjà le cas. On ne voulait pas ces caméras-là de sécurité, entre parenthèses, parce qu'on pensait que c'était lié à des images qui étaient envoyées du côté de la Chine, qui étaient récoltées pour peut-être savoir où sont les issues de secours, qui passe à tel endroit, quels sont les codes de sécurité d'entreprise. Et pour en parler, parce que là, ce qu'on apprend, c'est qu'Amazon vend toujours aux Québécois ces caméras-là qui ne coûtent pas grand-chose. Donc, ça peut être alléchant si vous voulez surveiller vos commerces, vos maisons ou autres. Puis, tu sais, je comprends. À un moment donné, tu te dis, ben, j'en veux une caméra, là. Juste mes colis Amazon ou autres, justement. Je ne veux pas qu'ils soient volés. Je veux savoir c'est qui, le Pierre-Jean-Jacques, qui est venu. Sauf qu'ils ne sont pas chers. Quand c'est pas cher, t'es souvent le produit. On s'en va rejoindre Steve Waterhouse, qui est au bout du fil, qui est expert en cybersécurité. Bonjour, Steve.
Bon, mais ça vous deux.
Par rapport à ce problème-là, parce que je pense qu'on peut considérer que c'est un problème, les caméras chinoises Hikvision, es-tu surpris que ça ait pas trop bougé au niveau de la vente?
Ben, je suis surtout surpris que c'est juste mal documenté, ce dossier-là, parce que les caméras Lorex qui sont vendues au Costco proviennent de Hikvision aussi. Donc, la chaîne de distribution est quand même très bien répartie et les Américains, eux autres, l'ont adressé le problème dès 2019, mais eux aussi sont encore pris avec ce problème-là, comme on vient au Canada de se réveiller puis de faire en sorte de prendre une décision ferme. Mais avant que ça se répercute et que ça prenne, on enlève les boîtes de ces tablettes, c'est drôle, on a enlevé l'alcool récemment, dans les derniers mois, des tablettes de la SAQ, ça a été vite. Mais quand on a un autre problème de sécurité nationale qui provient de la Chine, on prend du temps à agir, je la comprends pas, celle-là.
Mais c'est-tu parce qu'on a des ententes commerciales avec la Chine, puis on fait beaucoup d'affaires, ça nous coûte beaucoup moins cher justement pour des entreprises, on a de l'approvisionnement. On est-tu pris dans le vortex que les États-Unis ont décidé de s'attaquer dans les derniers mois, mais par mesure protectionniste puis beaucoup plus poids politique? On est-tu dans le même engrenage?
Pas tout à fait, mais on s'y rapproche parce que, oui, on en fait toujours des affaires de part et d'autre de la frontière, ça va de soi. Et on parle de la frontière aussi avec la Chine, mais il reste que lorsqu'il y a une évaluation de sécurité nationale pour des produits, même quand il y a des compagnies qui viennent s'installer ici, ils passent à travers vraiment un processus là, d'interview puis de vérification. Et quand ça vient faire mal à l'intérêt national, c'est là qu'il peut y avoir des décisions comme on a entendu récemment. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que c'est l'élément politique qui est long à prendre sa décision, malgré que l'information, elle est là, elle est omniprésente, ça fait des années, des dizaines d'années, je devrais dire. Et quand que même quand les décideurs sont informés, bien, eux autres, ils mesurent justement par rapport au contexte politique, au contexte social, économique. Et est-ce que ça va servir des fois l'appareil politique? C'est là que ça déraille, puis je suis pas d'accord avec les approches, malgré que, comme tu as si bien mis d'entrée, c'est que ça sert justement à un État-nation extérieur, à lui donner des avantages. Puis ailleurs dans le monde, dans les environnements de conflit qu'on a été mis au fait dans les dernières années, bien, ça a servi justement à part et d'autre des deux pays qui se battent l'un contre l'autre, que ce soit l'Israël avec la Palestine, que ce soit la Russie avec l'Ukraine, bien, les pirates, ils allaient pirater justement les caméras pour avoir des yeux sur le terrain, l'autre côté de la frontière, l'autre côté chez l'adversaire, puis ça les aidait dans le contexte de conflit. Maintenant, on ne l'est pas ici en conflit, mais on est toujours bien dans une guerre économique, et c'est là que ça sert l'autre pays, l'État-nation, qui veut exploiter l'information.
Mais deux, trois coups d'avance aussi, c'est connu dans n'importe quel contexte historique, oui. D'avoir deux, trois coups d'avance, que tu sois en guerre ou pas avec quelqu'un, que tu es allé chercher ton dû, ou encore que tu es allé voler ce que tu veux voler comme information de sécurité nationale pour mener à terme toi ta mission. Puis c'est particulier de voir qu'on ne prend même pas encore ça assez au sérieux. T'en parles, tu parles d'Israël, de l'Iran, de ce qui se passe avec la Russie, avec l'Ukraine. Est-ce qu'on a réellement besoin de se rendre là pour réveiller les gens dans tout ce qui est sécurité personnelle, mais surtout d'entreprise actuellement? Ça m'intéresse.
Malheureusement,
beaucoup.
Oui. Malheureusement, c'est l'argent qui est déterminant dans beaucoup de décisions. C'est pourquoi qu'ils ont rentré sur le marché malgré que c'était connu qu'il y avait des produits incomplets, non sécuritaires, mais ils se présentaient avec 30, 35, 40 % en bas du prix de marché. Mm-hmm. Fait que les gens veulent en avoir plus pour leur argent, vont acheter le produit qui coûte le moins cher, mais présente beaucoup de vulnérabilités. Et c'est là qu'après ça, ça devient difficile de dégommer de l'offre à commande, des enlever aussi du marché, parce qu'une fois qu'ils sont installés, non, ça coûte cher enlever ça, on n'ira pas toucher à ça. Fait que c'est pour là que c'est toujours mieux en amont de faire ces évaluations-là, mais tout le monde est gêné de prendre le lead, autrement dit, de prendre l'initiative, de dire non, pour des raisons de sécurité, je ne le fais pas. Puis c'est drôle parce que c'est dans la catégorie d'appareils qui sert à faire de la sécurité.
Ouais.
Donc, on a des services étatiques aussi au pays, au gouvernement fédéral, provincial et même municipal, dans les postes de police, que ces caméras-là sont installées. C'est ça qui est un peu ironique.
Oui, bien ironique, tu le dis, puis moi, je suis un petit peu plus cinglante là-dessus. J'ai l'impression d'être dans un dîner de cons. Tout le monde a vu le film, là. J'ai l'impression qu'eux, ils se sont dit, parfait, nous, on va entrer avec un produit qui ne coûte pas grand-chose. Les gens vont l'acheter quand même. On va s'implanter. Puis là, on spécule, mais on ose croire que ça s'est passé parce que ça s'est passé ailleurs. Puis, oui. Bon, la sécurité nationale le prend au sérieux, ce sujet-là, ces caméras chinoises-là. Mais tu dis, eux, sont juste intelligents. Au final, ils ont pris la part idiot de ce qu'on est comme citoyen au gouvernement et ils ont misé là-dessus. Puis en plus, ça fonctionne encore malgré le fait qu'on ait dit à tout le monde d'arrêter d'en vendre de ces caméras-là. Amazon continue de le faire. J'ai de la misère à continuer à sentir qu'on peut être crétin. Puis je sais que mon mot est fort, là.
Bien, c'est le constat aussi que je fais. Je partage ton opinion là-dessus. Puis malheureusement, c'est vraiment lorsqu'il y a des événements chocs qu'il y a des réactions, des changements profonds. On va donner un exemple peut-être bête, mais quand est arrivée la pandémie récemment, puis là, on s'est rendu compte, oups, on n'a plus de masques. Ah, c'est qui peut nous en donner? Ah, seulement produit en Chine. Ouais, il faudrait peut-être faire des usines ici pour en faire, ce serait peut-être pratique. Bang! Il y a eu conséquence, action-réaction de ce côté-là. Mais depuis, lorsqu'il y aura dans 10 ans, il n'y aura plus d'incidents majeurs. Est-ce que ça va être le cas de dire, ben, il coûte une pièce de plus cher à produire, il faudrait peut-être arrêter d'en faire ici? Tu sais, le genre de raisonnement qu'on a vu dans les 30 dernières années. Toujours la rationalisation, mais aucune anticipation sur la sécurité économique et surtout sur la sécurité de l'approvisionnement. Tant mieux si ça a créé un changement qui va durer dans l'avenir. Ça serait fort agréable à trouver, mais aussi à retrouver une certaine forme de souveraineté par rapport à notre autonomie économique et de production qu'on a perdue dans les années 80-70. Puis c'est de là que, côté technologique, bien, c'est encore plus fort parce que on ne produit plus rien technologiquement ici. On a déjà été... La radio, elle a été inventée ici, puis elle a été longtemps à Montréal comme un gros producteur, autrement dit, un gros déterminant économique, mais qu'on a tout perdu ça, cette expertise, c'est fini. Fait qu'on est toujours à la remorque des événements, à la remorque économique, qu'il y a quelqu'un à quelque part qui va l'en faire, puis on va l'acheter. Mais ici, il faudrait peut-être relancer ce genre de travail pour qu'on ait l'expertise qui se développe et qui demeure ici.
Avec un nouveau gouvernement libéral, un gouvernement Carney, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le gouvernement dise à partir de maintenant, on va faire plus attention, ces trucs de ce type-là, on va les prévoir puis on va l'empêcher tout de suite? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils disent, OK, le gouvernement précédent a fait l'erreur en termes de sécurité de ce côté-là, on va rattraper le tir? Ou on s'attend à une continuité, là?
Ben, j'aimerais ça être optimiste et dire on va espérer qu'ils vont changer les choses, mais il ne faut pas se leurrer. La majorité des fonctionnaires, les hauts fonctionnaires qui sont en place, c'est même ceux de l'ancienne administration qui travaillent avec les mêmes figures politiques à peu près. On peut-tu dire que c'est pas mal du copier-coller de ce qui était avant? Donc, la philosophie de travail risque de ne pas changer trop. Puis, s'il y a des groupes commun, ou du moins la population a voulu faire peut-être valoir son dire par son vote, mais entre la prochaine maintenant et la prochaine élection, comment est-ce qu'on va être en mesure de le faire valoir notre point au gouvernement pour dire « Hey, il faudra peut-être le faire, tu sais, notre discussion qu'on a ici ensemble, il faudra peut-être la faire valoir avec la nouvelle administration. » Les gens en doutent. Fait que donc, ça va être des éléments, des leviers à grande portée, soit des partis d'opposition, soit de d'autres nations à l'extérieur qui vont venir influencer le Canada. Ils vont cogner à la porte, vont dire « Faudra peut-être que tu changes tes approches », comme qu'on a vu récemment avec l'OTAN, où les pressions de part et d'autre de d'autres pays ont fait en sorte que le Canada, ben là, il va se rajuster, on va redevenir peut-être des leaders au côté militaire, parce qu'une expertise est toujours là, mais l'expertise s'effrite avec le temps. Mais là, on va peut-être avoir des nouveaux outils, mais surtout un influx d'argent pour encourager l'expertise qu'on a développée à travers les années, mais qu'elle ne quitte pas systématiquement parce qu'on n'a rien à faire. Mais bien, on va retrouver une façon de travailler qui va être beaucoup plus intelligente. Et là, ça va être intéressant parce que ça va les conséquences à long terme, ça va dire, ça va être des développements économiques qui vont se faire à l'intérieur du pays, beaucoup plus que d'aller aider les économies d'ailleurs.
J'ai un gros défaut. Parfois, c'est une qualité, mais souvent, c'est un défaut. J'ai de la misère à me contenir avec l'incompétence. Moi, l'incompétence, ça me pue au nez. On dirait qu'il y a toujours une façon d'aller plus loin. Il y a toujours une façon de ne pas se bloquer en disant « Ouais, ça se fait pas, ça. Ouais, non, mais on a toujours fait ça. Ouais, mais... » C'est des discours qui me rejoignent très peu et que je trouve difficiles. Quand je lis l'article du Journal de Québec, du Journal de Montréal sur ces caméras-là aujourd'hui, on rapporte que bon, le bureau d'enquête avait parlé de ça il y a 2 ans environ. Il y avait une 50aine d'organismes publics québécois qui utilisaient les caméras de surveillance Ecvision. Et là, on a demandé le ministère québécois de la cybersécurité et du numérique d'arrêter tout ça, que ce soit pour les ministères, les sociétés d'État, les établissements d'enseignement de santé, peu importe. On ne pouvait plus s'en procurer. On ne pouvait plus s'en procurer. Donc, on a pu s'en procurer. Pour moi, il y a des gens... Oui, c'est ça. Il y a des gens qui, pour moi... quand je les ai rencontrés, entre autres, dans des événements du Hackfest et tout, sont extrêmement brillants. Donc, on ne manque pas de gens brillants en cybersécurité. Steve Waterhouse, on te parle. Tu es souvent en train d'aller commenter sur des enjeux politiques. Tu es consultant bien souvent dans ces choses-là. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça bloque? On a vu ça avec la SAQ Click aussi. On a mis de l'argent dans du monde qui ne savait pas trop ce qu'il faisait. On a mis du temps... et on a sorti un logiciel à moitié, puis ça a créé plein de compétences, puis finalement, on est rendu en commission pour savoir ben, où la gérance là-dedans.
Oui.
Je ne comprends pas qu'on soit toujours au même point dans ce type d'enjeu-là.
Bien, c'est bien facile, moi, tu as le résumé comme ça. Les gens n'aiment pas poser des questions, puis n'aiment pas répondre aux questions difficiles. Fait que quand tu es là... tu arrives avec une expérience, une compétence acquise dans le passé, puis tu approches des projets comme ça, tu approches des politiques de cette nature-là, puis là, tu commences à parler des vraies choses, là. Il y en a qui n'aiment pas ça.
C'est une question
d'ego. Et
donc,
ils vont changer. Pardon?
Une question d'ego?
Question d'ego, mais là, quand tu parles, toi, tu arrives avec une expertise, puis tu parles avec des gens qui ne sont pas en connaissance de cause de leur sujet. Et là, ils se virent, puis ils essaient de mesurer ce que tu dis, ils ne comprennent absolument rien. Là, ils se regardent à d'autres conseillers autour qui ne l'ont pas plus, la compétence. Fait que là, c'est une gang d'incompétents là, qui sont là, qui se disent « qu'est-ce qu'on fait? » Fait que là, ils vont y aller avec la meilleure expérience et connaissances qu'ils ont. Et souvent, c'est là que le train déraille parce que malgré toutes les connaissances, les études, les avertissements sont amenés, eux autres, comme tu as dit, par égo, ils vont dire « ben non, je sais ce que je fais, je suis en place, moi je suis un gestionnaire chevronné, je sais ce que je fais. » Ben désolé, tu le sais pas, mon homme, tu es dans le champ, tu es fort bord du pas à peu près. Et c'est comme ça que, malheureusement, à tous les niveaux, fédéral, provincial, municipal, on retrouve de ces gestionnaires qui font pas confiance à l'expertise qu'ils ont autour d'eux. Puis là, on retrouve des projets qui s'en vont dans le drain. Puis ça nous coûte des centaines de millions de dollars, puis des milliards, comme on a dit avec la SACLIC. Et ça nous régresse, ça n'a aucun sens. Parce que les projets ne sont pas terminés. L'outil qu'on a convoité n'est pas disponible. Puis après ça, ben, tu as des gens qui en subissent des conséquences, comme le système de paye Phoenix qu'on a vu à Ottawa, qui en a encore, qui vivent de l'injustice de ce système-là, de ce développement-là, qui tout croche, mais qu'il y en a qui ont fait leurs argent, ils ont pris leur retraite, eux autres, ils ont une belle vie fantastique. Pendant ce temps-là, les autres continuent de travailler pour payer et l'outil n'est toujours pas disponible.
Mais les dommages aussi sont
importants. C'est là-dessus que, oui, on a des chiens de garde comme les vérificateurs qui viennent dire « Hey, voici qu'est-ce qui se passe, puis c'est pas correct. » Puis il y en a d'autres qui prennent action, puis il y en a d'autres qui laissent ça aller, puis ils se disent « Moi, il me reste juste 2 mois, je vais retenir mon souffle, puis après ça, je m'en vais à retraite. » Parce qu'il n'y a pas de continuité, mais il n'y a surtout pas de faire en sorte de que les gens sont reconnus responsables.
Il n'y a pas d'imputabilité.
Je cherche le terme français pour accountability, donc responsabilité n'est pas là.
Pas d'imputabilité là-dedans. Steve Waterhouse, expert en cybersécurité, je le répète ton titre parce que ça va peut-être mener à un éclaircissement sur la prochaine question. Est-ce qu'on paie assez cher les candidats ou encore est-ce qu'on offre un salaire à la hauteur de ce que l'international offre à des candidats qui pourraient être bons pour nous dans ces sphères-là? Puis je m'explique parce qu'on perd tellement d'argent avec les frasques qu'il faudrait peut-être changer notre fusil d'épaule en se disant, hey, savez-vous, à l'international, il y a du monde qui sont recrutés ici au Canada, au Québec, pour aller travailler à X salaire, effectivement, c'est faramineux, sauf qu'ils s'en vont ailleurs parce qu'ils savent que leur expertise vaut ce prix-là. Et nous, peut-être, décidons d'engager à moindre prix des gens qui n'ont pas la compétence assez accrue pour gérer ça parce que ça paraît très mal, parce qu'on se fait avoir, bon, bien souvent au niveau politique. Est-ce qu'on les paie assez? Est-ce qu'on recrute assez bien?
Le recrutement, il est là, mais il y a manque d'attraction pour la retenir, cette expertise-là. Parce que c'est une chose d'être intéressé d'aller travailler pour le gouvernement, parce que la vieille tradition d'approcher les gens, ou surtout amener le recrutement à maturité, c'est de garantir, bien, garde un fonds de pension doré qui t'attend dans 25 ans. Malheureusement, la donne est que les gens ne travaillent plus à la même place pendant 25 ans. Fait que les gens sont habitués de travailler à gauche et à droite. Fait que définitivement, puis j'en suis une preuve, le salaire qui est vraiment pas au rendez-vous quand tu vas travailler dans les instances gouvernementales, que ce soit fédéral ou provincial, que ce soit encore pire au municipal. Et les gens ne comprennent pas non plus que l'expertise technique en informatique surtout, ben c'est une compétence à même titre que d'étudier le droit. Il y en a qui vont dire non, un peu, c'est pas pareil, le droit on l'étudie pendant 4, 5, 6 ans, puis là après ça on est certifié reçu du barreau, etc. OK, mais pour faire travailler tous ces gens-là avec le droit légal, ça a besoin d'éléments techniques, puis après ça, l'expérience de 25 ans d'acquis sur le terrain et des connaissances apprises aussi par de la formation, que ce soit un bac ou maîtrise ou même de l'éducation technique, bien, ça fait en sorte qu'à un moment donné, il faudrait peut-être respecter aussi ce corps de métier-là puis dire, ouais, OK, eux autres aussi, ils savent ce qu'ils font, puis on va lui donner un salaire en conséquence. Mais malheureusement, les professions traditionnelles sont mieux vues parce qu'elles sont mieux encadrées, sont respectées. Mais les compétences traditionnelles, eux, le sont moins. Fait que ça prendra peut-être des éléments pour structurer une association de professionnels, je ne sais pas. Mais la conversation, elle se continue parce que depuis plusieurs années, ça se parle. Mais si on revient après ça dans l'instance gouvernementale, bien, les ressources RH, les ressources humaines, pardon, ne sont pas au rendez-vous puis ne sont pas au fait de comment est-ce que faudra peut-être les payer un peu plus cher, les expertises. Parce que, moi, dire en affaires, quand tu engages quelqu'un de base au gouvernement du Québec, puis on lui offre un salaire de 45 000, voyons donc. Ça, c'est un peu rire du monde. Je sais pas comment tu le vois, mais un aspect que ça, c'est le palier de base. Là. Fait que l'étudiant qui sort du soit qu'il arrive en immigration ou qu'il sort du système scolaire, il est au gouvernement, puis il a 45 000 $, il fout comme un balai. Mais avec le temps, il connaît le marché, puis tout ça, puis il dit, oh, attends un peu, ça devrait être minimum 65 000, me semble, ce job-là. Puis c'est ça le constat que les gens font. Et certaines instances sont pour rendez-vous. Fait que, veux pas, il y en a qui vont dire, ben, si on remonte les salaires, il faut augmenter les impôts. Ouais, mais là, il y a tout un jeu en arrière à travailler.
Il faudrait le tester aussi. On va finir là-dessus parce qu'on pourrait en parler pendant 1h30. Je nous connais. Mathias aussi, il est là, il est tout oui, il écoute. Les commentaires au 88-971-1021 ou encore sur Twitch, continuez de faire valoir vos trucs. Mais j'ai l'impression, Steve, qu'on économiserait tellement, mais tellement d'argent avoir quelqu'un qui est capable de colmater ça, puis qui est capable de prévenir. Puis c'est si on était capable de mettre un papier avec le chiffre exact devant nous, là. Mais là, on pourrait convaincre.
Il faudrait se trouver une politique ou un plan qu'on dit, ben voici un plan qui est pour un projet que, peu importe le parti qui vient au pouvoir, ce projet-là va de l'avant, puis il ne devrait pas être défait. Mm-hmm. Fait que là, à ce moment-là, tu consacres argent et ressources, puis tu n'y touches plus, puis ça se réalise. Mais par contre, il va falloir qu'il y ait des éléments pour venir dire, OK, compte rendu obligatoire à tous les 6 mois, 1 an, peu importe. Et comme ça, ça tombera pas d'un dallot. Mais par contre, il faut avoir des gens indépendants, de bonnes compétences, puis qui se rapportent en dehors d'une chaîne normale de responsabilité pour que des gens le sachent. Puis, je travaille davantage, moi, que ça soit public, ces éléments-là. Il y en a qui vont dire non, il faut cacher ça. Il faut arrêter. Faire la sécurité par l'obscurité, ça n'a plus sa place.
Il faut au moins l'expliquer. Faut au moins l'expliquer aux gens. Si c'était pas du Journal de Québec, du Journal de Montréal, du Bureau d'enquête en ce moment, on n'en parlerait même pas. Puis il y a des gens qui continueraient d'acheter ces caméras-là. Puis peut-être qu'on fournirait de l'information impromptue à un autre pays. On est chanceux, on n'est pas en guerre, mais donnons pas de l'information en surplus à des gens qui pourraient l'utiliser de manière. Violente là, pour la suite des choses, que ce soit violent concrètement ou violent plutôt à l'intérieur de nos systèmes. Merci Steve Waterhouse, expert en cybersécurité. Toujours un plaisir de te parler.
Pareillement, bonne journée.
Salut. Eggvision, c'est le nom des caméras. La fondation de l'entreprise, c'est 2001. Les employés, il y en a 59 000 qui travaillent au sein de cette entreprise-là. C'est quand même du monde, hein?
C'est beaucoup de personnes.
Toujours à se poser des questions. Les profits en 2024, encore 2,7 milliards de dollars. Donc, on peut s'en poser des questions. Surtout, essayer de peut-être faire des meilleurs choix au quotidien en tant que citoyen.
D'éviter ces produits-là si le gouvernement agit pas, si le gouvernement n'est pas capable de mettre son pied sur la table et dire « moi, je vais empêcher ces produits-là, moi, pour la sécurité de mon pays, je vais les enlever ». En tant que citoyen, on a quand même un petit devoir là-dedans.
Mais Mélanie Joly, là, la ministre canadienne de l'Industrie, qui a exigé aux fabricants de cesser ses activités, j'ai un peu ri.
C'est pas suffisant.
J'ai un peu ri quand j'ai lu cette phrase-là. Marceau le midi.